Dans une grande salle au sol couvert de magnifiques tapis de Boukhara d'âge vénérable et tendus de tapisseries aux motifs énigmatiques, quatre hommes étaient assis autour d'une table parsemée de documents. Des vapeurs hypnotiques d'Oliban montaient des coins éloignés de la pièce, où un nègre d'un âge impressionnant, vêtu d'une livrée sombre, rechargeait de temps à autre d'étranges trépieds de fer forgé, tandis que, dans une profonde niche située sur l'un des côtés, résonnait le tic-tac d'une curieuse horloge en forme de cercueil au cadran semé de hiéroglyphes déconcertants, et dont les quatre aiguilles tournaient en désaccord absolu avec tous les systèmes de mesure du temps connus en ce monde. C'était un endroit singulier et troublant, mais parfaitement adapté à l'affaire qu'on s'apprêtait à y traiter. Car c'était ici, dans la maison de la Nouvelle-Orléans du plus grand occultiste, mathématicien et orientaliste de ce continent, qu'allait enfin être réglée la succession d'un occultiste, érudit, auteur et rêveur à peine moins important, qui avait disparu de la surface de la Terre 4 ans auparavant. Randolph Carter, qui toute sa vie avait cherché à fuir l'ennui et les contraintes de la réalité quotidienne en se réfugiant dans les rêves et les avenues fabuleuses des autres dimensions, avait disparu le 7 octobre 1928 à l'âge de 54 ans. Sa carrière avait été étrange et solitaire, et certaines personnes déduisaient de ses curieux romans nombre d'événements encore plus bizarres que tout ce qu'on savait officiellement de lui. Il avait été intimement lié à Harley Warren, cet occultiste de Caroline du Sud dont les recherches sur le Naakal, ce langage primitif des prêtres de l'Himalaya, avaient abouti à de si scandaleuses conclusions. En vérité, c'est Carter qui, par une terrible nuit dans un ancien cimetière où planait un brouillard démentiel, avait vu Warren descendre dans un caveau humide et nitreux, d'où il ne devait jamais remonter. Carter vivait à Boston, mais ses ancêtres étaient tous originaires des collines sauvages et hantées situées derrière Arkham, cette vénérable cité que les sorcières avaient maudite. C'est au sein de ces antiques collines où planaient d'effrayants mystères qu'il avait fini par disparaître. Parks, son vieux serviteur, mort en 1930, avait parlé du coffret mystérieusement odoriférant et orné de sculptures hideuses que Carter avait découvert dans le grenier, ainsi que des parchemins indéchiffrables et de la clé d'argent bizarrement décorée qui se trouvait à l'intérieur. Découverte dont Carter devait d'ailleurs informer ses correspondants. Carter aurait raconté à Parks que cette clé venait de ses ancêtres, et qu'elle l'aiderait non seulement à ouvrir la porte de son enfance perdue, mais aussi celle de ces étranges dimensions et royaumes fantastiques qu'il n'avait jusqu'alors visités qu'au cours de brefs, vagues et indéfinissables rêves. Et puis, un jour, Carter avait pris le coffret et son contenu, était monté dans sa voiture et s'en était allé au loin pour ne jamais revenir. Plus tard, derrière Arkham, la ville qui tombe en ruine, la voiture de Carter fut retrouvée abandonnée sur le bas-côté d'une vieille route envahie par les herbes, dans ces mêmes collines où ses ancêtres avaient jadis vécu, et où la cave éboulée de leur imposante demeure béait encore à ciel ouvert. Un autre Carter avait déjà mystérieusement disparu en 1781, non loin de là, dans un bosquet de grands ormes tout près de la masure pourrissante où Goody Fowler, la sorcière, préparait autrefois ses funestes potions. La région avait été colonisée en 1692 par des gens qui avaient fui les procès pour sorcellerie de Salem. Son nom sert aujourd'hui encore à désigner ces choses vaguement effroyables auxquelles on ose à peine penser. Edmund Carter avait fui juste à temps l'ombre de Gallows Hills, la colline des potences, et on ne comptait plus les récits de ses tours de sorcier. Il semblait à présent que son unique descendant fût parti le rejoindre on ne savait où. On retrouva dans la voiture l'odorant coffret de bois hideusement sculpté et le parchemin que nul ne parvint à déchiffrer. La clé d'argent avait disparu, probablement avec Carter. En dehors de cela, il n'y avait aucune piste précise. Des détectives de Boston dirent que les charpentes écroulées de la vieille résidence des Carter semblaient avoir été étrangement dérangées, et quelqu'un trouva un mouchoir derrière les ruines, sur un versant sinistrement boisé et couvert de rochers, tout près de la redoutable caverne appelée la Tanière du Serpent. Cette découverte donna un regain de vitalité aux légendes qui couraient le pays sur cette Tanière du Serpent. Les fermiers parlaient à voix basse des cérémonies blasphématoires auxquelles le vieil Edmund Carter, le sorcier, s'était livré dans cette horrible grotte. À ces histoires, ils en ajoutèrent d'autres portant sur la passion que Randolph Carter lui-même avait éprouvée pour ces lieux quand il était encore un petit garçon. Durant l'enfance de Carter, la vieille demeure au toit en croupe était encore d'aplomb et habitée par son grand-oncle Christopher. Il s'y était souvent rendu et avait tenu d'étranges propos sur la Tanière du Serpent. Les gens se rappelaient qu'il avait parlé d'une profonde crevasse débouchant sur une mystérieuse caverne. Toutes sortes d'hypothèses circulaient au sujet des changements survenus chez le jeune Carter après qu'il eut passé une mémorable journée dans la caverne à l'âge de 9 ans. Cela aussi avait eu lieu en octobre. Et par la suite, Carter devait faire preuve d'une étrange capacité à prédire l'avenir. La nuit de la disparition de Carter, il avait plu jusqu'à une heure très avancée, si bien que personne n'avait pu suivre les traces de pas qu'il avait laissées en s'éloignant de la voiture. Dans la Tanière du Serpent, seul régnait un désordre de boue liquide provoqué par d'abondantes infiltrations. Et il n'y eut que des pecnos ignares pour parler à voix basse des empreintes de pas qu'il croyait avoir aperçues du côté des grands ormes qui surplombent la route, et sur ce sinistre versant de colline non loin de la Tanière du Serpent où l'on avait retrouvé le mouchoir. Qui pouvait prêter attention à ces histoires de petites empreintes de pas semblables à celles que laissaient les bottes à bout carré de Randolph Carter quand il était enfant? C'était tout aussi fou que cette autre rumeur selon laquelle les traces de bottes au talon si particulier du vieux Benny Jack O'Reilly rejoignaient les petites empreintes de pas sur la route. Le vieux Benny Jack avait été l'homme à tout faire des Carter quand Randolph était jeune, mais il était mort 30 ans plus tôt. Probablement à cause de toutes ces rumeurs, plus le fait que Carter lui-même avait déclaré à Parks et à d'autres que la clé d'argent aux arabesques bizarres l'aiderait à ouvrir la porte de son enfance disparue, un grand nombre d'occultistes déclarèrent que le disparu avait fait demi-tour sur la route du temps et qu'il était reparti 45 ans en arrière jusqu'à cette autre journée d'octobre, en 1883, où il avait séjourné dans la Tanière du Serpent quand il était petit garçon. Lorsqu'il en était ressorti cette nuit-là, affirmait-il, il s'était rendu, on ne sait comment, en 1928 et en était revenu, car après cela, n'avait-il pas évoqué des événements qui ne devaient se produire que plus tard? Cependant, il n'avait jamais parlé d'aucun fait postérieur à 1928. L'un de ces amateurs d'occultisme, un vieil excentrique de Providence, Rhode Island, qui avait eu le privilège d'entretenir une longue correspondance intime avec Carter, soutenait une théorie encore plus élaborée. Pour lui, Carter était non seulement reparti dans son enfance, mais il avait atteint un état de libération bien plus avancé, grâce auquel il pouvait se promener à sa guise dans les échappées colorées de ses rêves d'enfant. Ayant eu une vision étrange, cet homme publia une histoire de la disparition de Carter, où il laissait entendre que le disparu occupait maintenant le trône d'opale du roi d'Ilegvad, cette ville fabuleuse dont les 1000 tourelles se dressent au-dessus des creuses falaises de verre qui surplombent la mer crépusculaire, où les gnories à barbe et à nageoires construisent leurs étranges labyrinthes. Ce vieil homme, Ward Phillips, fut celui qui s'opposa le plus fermement à ce que les biens de Carter fussent partagés entre ses héritiers, tous des cousins éloignés, au motif qu'il continuait à vivre dans une autre dimension temporelle, d'où il pouvait très bien revenir un jour. Son principal adversaire dans cette affaire était un juriste de talent, Ernest B. Aspinwall, un cousin de Carter qui, bien que de 10 ans son aîné, montrait aux joutes juridiques autant d'ardeur qu'un jeune homme. Pendant 4 ans, la controverse avait fait rage, mais l'heure du partage avait désormais sonné, et c'était dans cette grande pièce étrange de la Nouvelle-Orléans qu'il allait être effectué. La maison appartenait à l'exécuteur littéraire et financier de Carter, Étienne Laurent de Marigny, un homme d'origine créole, amateur éclairé de mystères et d'antiquités orientales. Carter avait fait sa connaissance pendant la guerre en France, où ils avaient tous les deux servi dans la Légion étrangère, et s'étaient aussitôt liés avec lui parce qu'ils partageaient les mêmes goûts et opinions. Au cours d'une mémorable permission commune, le jeune érudit créole avait emmené le mélancolique rêveur bostonien dans le sud de la France, à Bayonne, pour lui montrer quelques terribles secrets enfouis dans les cryptes immémoriales et ténébreuses creusées sous cette cité écrasée par des siècles de mystères. Et leur amitié avait été scellée à jamais. Dans son testament, Carter instituait Marigny comme exécuteur de ses dernières volontés, et ce brillant érudit présidait donc à contre-cœur au règlement de la succession. Il s'agissait pour lui d'une triste besogne, car, tout comme le vieil habitant du Rhode Island, il ne croyait pas à la mort de Carter. Mais quel poids les rêves des occultistes peuvent-ils avoir contre l'âpre sagesse du monde ? Autour de la table de cette étrange pièce du vieux quartier français, on trouvait réunis ceux qui se prétendaient concernés par l'affaire. Conformément aux usages, des annonces légales avaient été publiées dans les journaux des régions où les héritiers de Carter étaient susceptibles d'habiter, afin de les informer de cette réunion. Pourtant, seules 4 personnes étaient assises là en train d'écouter le tic-tac anormal de cette horloge en forme de cercueil qui n'indiquait aucun temps terrestre, mêlé aux gargouilles de la fontaine qui provenait de la cour, derrière les fenêtres aux rideaux à moitié fermés. Alors que les heures s'écoulaient, les tourbillons de fumée s'élevant des trépieds rechargés à la va-vite qui semblait de moins en moins nécessiter l'intervention silencieuse du vieux nègre de plus en plus nerveux, dissimulait presque les visages des 4 personnages. Il y avait donc Étienne Laurent de Marigny lui-même, mince, brun, élégant, moustachu et toujours jeune. Aspinwall, qui représentait les héritiers, avait les cheveux blancs, un gros ventre et un visage apoplectique encadré par des favoris. Phillips, le grisonnant occultiste de Providence aux épaules voûtées, était frêle, rasé de frais et avait un long nez. Le 4e homme était maigre et d'un âge indéterminé, son visage, barbu et foncé, étrangement immobile, aux contours très réguliers, était coiffé d'un turban d'une haute caste de brahmanes. Quant à ses yeux d'un noir profond, brûlant et presque dépourvu d'iris, il semblait vous regarder de très loin. Il s'était présenté comme étant le Pandit Chandraputra, un adepte venu de Bénarès pour donner d'importantes informations. Marigny et Phillips, qui avaient tous deux échangé des courriers avec lui, avaient promptement reconnu la validité de ses prétentions mystiques. Sa voix avait une intonation étrangement métallique, creuse et artificielle. Cependant, il parlait couramment un anglais aussi correct et idiomatique que celui de n'importe quel anglo-saxon de naissance. Il était vêtu à l'européenne, mais ses habits flottants lui allaient bizarrement mal tandis que son épaisse barbe noire, son turban oriental et ses grandes moufles blanches lui donnaient un air d'excentricité exotique. Tout en promenant ses doigts sur le parchemin qu'on avait retrouvé dans la voiture de Carter, Marigny disait « Non, je n'ai rien pu tirer de ce document. Monsieur Phillips, ici présent, y a lui aussi renoncé. Le colonel Churchward déclare que ce n'est pas du Naakal, et ça ne ressemble absolument pas aux hiéroglyphes de cette massue de l'île de Pâques, même si les sculptures du coffret font beaucoup penser aux pétroglyphes de cette île. » Ce qui pour moi se rapproche le plus des caractères de ce parchemin, voyez comme toutes les lettres semblent suspendues à la barre horizontale, c'est l'écriture d'un livre que possédait autrefois ce pauvre Harley Warren. Il l'avait reçu d'Inde alors que Carter et moi étions en visite chez lui en 1919. mais il n'a jamais rien voulu nous en dire. Il prétendait qu'il valait mieux pour nous que nous en sachions le moins possible, et laissa vaguement entendre que ce livre venait peut-être à l'origine d'un autre endroit que la Terre. Il l'a emporté avec lui en décembre, lorsqu'il est descendu dans le caveau de ce vieux cimetière, mais ni lui ni le livre ne sont jamais remontés à la surface. Il y a quelque temps, j'ai envoyé à notre ami ici présent, le pandite Chandraputra, un dessin exécuté de mémoire de certains de ces hiéroglyphes, ainsi qu'un photostat du parchemin de Carter. Maintenant qu'il a consulté certaines personnes et ouvrages de référence, il pense pouvoir nous éclairer à leur sujet. En ce qui concerne la clé, Carter m'en a envoyé une photographie. Ces curieuses arabesques ne sont pas des lettres, mais semblent appartenir à la même tradition culturelle que les hiéroglyphes du parchemin. Carter affirmait qu'il était sur le point de résoudre le mystère, bien qu'il ne donnât jamais de détails. Un jour, il a évoqué cette affaire en employant un ton quasiment lyrique. Cette antique clé d'argent, prétendait-il, ouvrirait la série de portes qui nous empêchent de descendre les formidables couloirs de l'espace et du temps menant à cette frontière qu'aucun homme n'a franchie depuis que Shaddad, dans son terrifiant génie, construisit et cacha dans les sables de l'Arabie pétrée les dômes prodigieux et les innombrables minarets d'Irem aux mille piliers. Des derviches à moitié morts de faim, écrivit Carter, et des nomades devenus fous de soif sont revenus parler de ce portail monumental et de la main sculptée au-dessus de sa clé de voûte. Mais ceux qui ont réussi à le franchir n'en sont jamais revenus pour nous dire que leurs empreintes sur le sable parsemé de gravats qui se trouvent de l'autre côté témoignent de leur passage. La clé, supposait-il, était celle que la titanesque main sculptée cherchait en vain à saisir. Pourquoi Carter n'a-t-il pas pris le parchemin en même temps que la clé? Nous ne pouvons le dire. Peut-être l'a-t-il oublié, ou peut-être s'abstint-il de l'emporter, parce qu'il n'arrivait pas à oublier ce qui était arrivé à celui qui avait pris avec lui un livre plein de caractères similaires dans un tombeau et n'en était jamais revenu. Peut-être n'en avait-il pas besoin pour ce qu'il voulait faire. Lorsque Marigny s'interrompit, le vieux monsieur Philippe se déclara d'une voix haute perchée.
« Tout ce que nous savons des voyages de Randolph Carter, c'est ce que nous en rêvons. Je me suis rendu dans de nombreux endroits étranges en rêve, et j'ai entendu beaucoup de choses étranges et chargées de sens à Ultar, sur l'autre rive du Sky. » Apparemment, le parchemin n'était pas nécessaire, car il est incontestable que Carter a réintégré le monde de ses rêves d'enfant et qu'il est maintenant roi d'Ilagvad.
Monsieur Aspinwall semblait au bord de l'apoplexie. Il postillonna.
Quelqu'un peut-il faire taire ce vieux fou? Assez de dinguerie! Nous sommes ici pour répartir les biens de Carter et il serait temps de nous y mettre.
Pour la première fois, le pandit Chandraputra prit la parole de sa voix bizarrement exotique. « Messieurs, cette affaire va bien au-delà de ce que vous croyez. Monsieur Aspinwall a tort de se moquer des preuves que nous apportent les rêves. Monsieur Phillips n'en a eu qu'un bref aperçu, peut-être parce qu'il n'a pas assez rêvé. Moi, en ce qui me concerne, je me suis beaucoup adonné aux rêves, comme c'est l'usage en Inde, ainsi que chez les Carter, apparemment. Vous, monsieur Aspinwall, en tant que cousin de la branche maternelle, n'êtes évidemment pas un Carter. Mes propres rêves et certaines autres sources d'informations m'ont amplement renseigné sur des sujets que vous trouvez encore obscurs. Par exemple, sur le fait que Randolph Carter ait oublié ce parchemin, qu'il n'était pas encore capable de déchiffrer, alors qu'il aurait mieux valu pour lui qu'il le prenne. Voyez-vous, je sais à peu près tout de ce qui est arrivé à Carter lorsque, après avoir emporté la clé d'argent, il abandonna sa voiture au soleil couchant en ce 7 octobre, il y a 4 ans. Aspinwall ricana suffisamment fort pour être entendu, mais les autres se dressèrent sur leur siège avec un intérêt accru. La fumée des trépieds s'épaissit, et le tic-tac insensé de l'horloge en forme de cercueil se mit à battre à un rythme bizarre, comme les points et les traits d'un étrange et insoluble télégramme envoyé depuis le fin fond de l'espace. L'hindou se renfonça dans son siège, ferma à moitié les yeux et poursuivit son discours de sa voix étrangement forcée, mais idiomatiquement irréprochable, tandis que devant son auditoire commençait à flotter l'image de ce qui était arrivé à Randolph Carter. Derrière Arkham, les collines sont empreintes d'une étrange magie que peut-être ce vieux sorcier d'Edmund Carter fit descendre des étoiles et monter des cryptes des profondeurs de la Terre quand il s'enfuit de Salem en 1692. Dès que Randolph Carter fut de retour parmi elles, il sut qu'il était tout près d'une des portes que quelques rares hommes audacieux et détestés, dont l'âme appartenait à un lointain ailleurs, avaient réussi à forcer. Une de ces portes sertises au sein des murs titanesques qui séparent notre monde de l'absolu au-delà. Il sentait qu'en cet endroit et en ce jour particulier de l'année, il pourrait transmettre avec succès le message qu'il avait déchiffré des mois plus tôt à partir des arabesques de cette clé d'argent ternie et incroyablement ancienne. Il savait maintenant comment la tourner, la présenter au soleil couchant, connaissait les syllabes incantatoires qu'il devait psalmodier dans le vide à la neuvième et dernière rotation. Dans un lieu aussi proche d'une polarité sombre et d'une possible porte, il était impossible que la clé ne remplît pas sa fonction principale. À n'en pas douter, il se reposerait cette nuit-là dans l'enfance perdue qu'il n'avait jamais cessé de pleurer. Il sortit de la voiture avec la clé dans sa poche, gravit la colline et s'enfonça de plus en plus profondément au cœur des ombres de ce paysage hanté et baigné de mystères, fait de routes qui couraient à la diable, de murets envahis de ronces, de futaies noires, de vergers rabougris et mal entretenus, de fermes abandonnées aux fenêtres aveugles et de ruines sans nom. Quand le soleil descendit derrière l'horizon, alors que les lointaines flèches de Kingsport rougissaient au couchant, il sortit la clé et la tourna en prononçant les paroles requises. Il lui fallut un peu de temps pour se rendre compte à quel point le rituel avait fait rapidement effet. Alors, dans le crépuscule qui allait en s'épaississant, il avait entendu une voix surgie du passé. Le vieux Benny Jacorey, l'homme à tout faire de son grand-oncle. Le vieux Benija n'était-il pas mort depuis 30 ans? 30 ans avant quoi? En quelle année était-il? Où était-il allé? Qu'y avait-il d'étrange à ce que Benija l'appelât en ce 7 octobre 1883? N'était-il pas resté dehors plus longtemps que Tante Martha ne l'y avait autorisé? Qu'est-ce que c'était que cette clé dans la poche de sa blouse, là où la petite longue-vue que son père lui avait offerte 2 mois plus tôt pour son 9e anniversaire aurait dû se trouver? L'avait-il découverte dans le grenier, à la maison? Ouvrirait-elle le pylône mystique que sa vue perçante avait repéré au milieu des roches déchiquetées qui tapissaient les profondeurs de cette grotte, derrière la tanière du serpent, là-haut sur la colline? Cet endroit avait toujours été associé au vieil Edmund Carter, le sorcier. On n'y venait jamais et à part lui, personne n'avait remarqué la crevasse encombrée de racines qu'il connaissait pour y avoir rampé et qui menait vers cette grande et sombre chambre intérieure où se trouvait le pylône. Quelles mains avaient sculpté cette suggestion de pylône dans la roche vivante? Celle du vieux sorcier Edmund? Ou d'autres qui avait répondu à ses invocations et à ses commandements? Ce soir-là, le petit Randolph dîna avec son oncle Chris et sa tante Martha dans la vieille ferme au toit en croupe. Le lendemain matin, il se leva de bonne heure et grimpa à travers le verger aux pommiers tordus jusqu'à la futaie où la tanière du serpent ouvrait sa gueule noire et repoussante au milieu des chaînes grotesques et trop fournies. Il était si impatient de découvrir il ne savait quoi qu'il ne remarqua même pas la perte de son mouchoir, alors qu'il fouillait la poche de sa blouse pour s'assurer que l'étrange clé d'argent s'y trouvait toujours. Il rampa à travers l'ouverture sombre avec une intense et audacieuse assurance, s'éclairant avec les allumettes qu'il avait chipées au salon. Un peu plus tard, après s'être introduit en se tortillant dans la crevasse envahie de racines qui se trouvait au fond de la première caverne, il débouchait dans la grande grotte intérieure que nul ne connaissait et dont la paroi du fond évoquait un monstrueux pylône érigé dans un but précis. Devant ce mur suintant d'humidité, il demeura immobile, silencieux et comme frappé de terreur, craquant allumette sur allumette pour continuer à y voir. Cette protubérance rocheuse surmontant la clé de voûte de cette sorte d'arche était-elle vraiment une gigantesque main sculptée? Alors il sortit la clé d'argent, fit des gestes et prononça des invocations dont il ne se rappelait presque plus l'origine. N'avait-il rien oublié? Il savait seulement qu'il souhaitait franchir la barrière qui le séparait du pays sans contrainte de ses rêves et les gouffres où toutes les dimensions se dissolvent dans l'absolu. Ce qui se produisit alors est presque impossible à rendre avec des mots. Cela fourmille de paradoxes, contradictions et anomalies qui n'ont pas leur place dans la vie éveillée, mais peuplent nos rêves les plus fantastiques, et y sont considérés comme naturels jusqu'au moment où nous réintégrons notre monde étroit, rigide et objectif, fait de logique tridimensionnelle et de rapports de cause à effet limités. L'hindou continua son récit en s'efforçant de contourner, outre la difficulté consistant à rendre crédible l'idée qu'un homme pouvait traverser les années jusqu'à son enfance, tout ce qui pouvait le faire ressembler à un délire trivial et puéril. Écœuré, M. Aspinwall lâcha un grognement apoplectique et se désintéressa de la conversation. Car le rituel de la clé d'argent que Randolph Carter avait pratiqué dans les ténèbres hantées de cette seconde caverne ne s'était pas révélé inefficace. Dès le premier geste, la première syllabe, apparut l'aura d'un changement étrange et terrifiant, une sensation de perturbation et de bouleversement incalculable dans le temps et l'espace, sans qu'il y ait cependant de rapport avec ce que l'on a l'habitude de reconnaître comme le mouvement et la durée. Imperceptiblement, des notions telles que l'âge et le lieu perdirent toute signification. La veille, Randolph Carter avait miraculeusement franchi le gouffre des ans. Il n'y avait désormais plus de différence entre l'enfant et l'adulte. Seule existait l'entité Randolph Carter, riche d'une certaine quantité d'images qui n'étaient plus du tout reliées ni à la terre ni à la manière dont elles avaient été acquises. Un instant auparavant, il y avait la caverne intérieure avec, sur la paroi du fond, les formes vaguement suggérées d'une arche monstrueuse et d'une gigantesque main sculptée. À présent, il n'y avait plus ni caverne ni absence de caverne, ni paroi ni absence de paroi. Seul demeurait un flux d'impressions plus cérébrales que visuelles, au sein duquel l'entité qui était Randolph Carter ressentait tout ce que son esprit enregistrait ou percevait des choses qui l'entouraient, sans toutefois avoir clairement conscience de la façon dont ces sensations lui arrivaient. Lorsque le rituel prit fin, Carter sut qu'il ne se trouvait dans aucune région connue des géographes de la Terre, ni dans aucune des époques situées dans l'histoire. Car la nature de ce phénomène ne lui était pas totalement inconnue. Il y était fait allusion dans les mystérieux fragments pnacotiques ainsi que dans tout un chapitre du Necronomicon, l'ouvrage interdit de l'arabe dément Abdul al-Azred, qui lui était devenu intelligible après qu'il eut déchiffré les motifs gravés sur la clé d'argent. Une porte avait été ouverte, non pas en vérité l'ultime porte, mais une autre menant de la terre et du temps à cette extension de la terre qui est hors du temps, et d'où, à son tour, la porte ultime mène de manière effroyable et périlleuse au vide ultime qui se trouve hors de toutes les terres, de tous les univers et de toute matière. Il y aurait un guide absolument terrible, un guide qui, des millions d'années plus tôt, avait été une entité terrestre, à l'époque où l'homme n'était même pas encore un rêve, et où des formes oubliées se déplaçaient sur une planète enveloppée de vapeurs pour construire d'étranges cités dont les ultimes ruines croulantes devaient servir de terrain de jeu aux premiers mammifères. Carter se rappela ce que le monstrueux Necronomicon avait vaguement et de manière déconcertante laissé entendre au sujet de ce guide. L'arabe dément avait écrit: quant à ceux qui ont osé jeter un regard de l'autre côté du voile et l'accepter lui comme guide, ils eussent été plus prudents en évitant tout commerce avec lui. Car il est écrit dans le livre de Thoth que le prix à payer pour un simple coup d'œil est absolument terrifiant. Ceux qui sont passés de l'autre côté ne pourront jamais en revenir, car dans les vastitudes qui transcendent notre monde se trouvent des formes de ténèbres qui saisissent tes ligotes. Le problème qui se traîne pas à pas dans la nuit, le mal qui défie le signe des anciens, le troupeau qui monte la garde au portail secret que possèdent, on le sait, tous les tombeaux, et qui se nourrit de ce qui pousse sur ceux qui les occupent, toutes ces noirceurs sont ses inférieurs à lui qui garde la porte. Lui qui guidera l'imprudent par-delà tous les mondes dans l'abîme des innommables dévorateurs. Car il est Umr At-Tawil, le plus ancien de tous, ce que le scribe a rendu par celui dont la vie a été prolongée. Dans ce chaos effervescent, la mémoire et l'imagination de Carter formèrent de pâles moitiés d'images aux contours incertains, dont il savait qu'elles n'étaient issues que de sa mémoire et de son imagination. Pourtant, il sentait que si ces choses s'échafaudaient dans sa conscience, ce n'était pas par hasard, mais parce qu'autour de lui une sorte d'immense réalité, ineffable et hors de toute dimension, s'efforçait de se traduire elle-même en se servant des seuls symboles qu'il était capable de comprendre. En effet, aucun esprit de la Terre n'est en mesure d'appréhender les prolongements de formes qui s'entrelacent dans les abîmes obliques hors du temps et des dimensions que nous connaissons. Là, Carter voyait flotter une procession vaporeuse de formes et de scènes qu'il associa malgré lui aux premiers âges de la Terre, oubliés depuis des millénaires. Deux monstrueuses choses vivantes se déplaçaient délibérément au sein de constructions fantastiques, impossibles à échafauder en rêve pour un homme sain d'esprit. Et dans d'extraordinaires paysages de falaises et de montagnes recouverts d'une végétation inouïe, on apercevait des bâtiments qui n'avaient pas d'équivalent humain. Dans les profondeurs océaniques, il y avait des cités habitées. Et dans d'immenses déserts se dressaient des tours ou des globes, des cylindres et d'innommables entités ailées s'élançaient vers l'espace ou en revenaient à vive allure. Carter comprenait tout cela, même si ces images n'avaient aucun rapport entre elles ni avec lui. D'ailleurs, il n'avait lui-même ni forme ni position fixe, mais seulement ces sortes d'ébauches, toujours changeante, de forme et de position que lui fournissait son imagination tourbillonnante. Il avait souhaité retrouver les régions enchantées de ses rêves d'enfant, là où des galères voguaient devant les flèches d'or de Tran en remontant l'Oukranos, et où des caravanes d'éléphants progressaient lourdement dans les jungles parfumées du Cled, par-delà les palais oubliés à colonnes d'ivoire qui dormaient sous la lune, superbes et intactes. À présent qu'il était grisé par de plus prodigieuses visions, il ne savait plus guère ce qu'il cherchait. Des pensées d'une audace infiniment blasphématoire naquirent dans son esprit, et il comprit qu'il affronterait sans crainte le redoutable guide et lui demanderait des choses terribles et monstrueuses. Tout à coup, le cortège d'impressions parut se figer vaguement. Il y avait d'immenses masses de pierre, sculptées de manière étrange et incompréhensible, et disposées selon les lois d'une géométrie inconnue, inversée. Du haut d'un ciel de couleur indéfinissable, la lumière tombait dans de déconcertantes directions contradictoires en jouant de manière presque consciente sur ce qui ressemblait à de gigantesques piédestaux disposés en demi-cercle. Ces piédestaux, couverts de hiéroglyphes et d'une forme plutôt hexagonale, étaient surmontés de formes voilées aux contours mal définis. Il y avait également une autre forme. Elle n'occupait aucun piédestal, mais semblait glisser ou flotter au-dessus de ce qui tenait lieu de sol vaporeux, au niveau inférieur. Ses contours n'étaient pas vraiment permanents, mais suggéraient quelque chose dont l'aspect avait précédé celui des hommes, ou évolué parallèlement à lui, même si elle était plus grande de moitié qu'un homme ordinaire. Cette forme, comme celle des piédestaux, paraissait recouverte d'un très lourd voile fait d'une sorte de tissu de couleur neutre où Carter ne put distinguer aucun trou par lequel elle aurait pu regarder. Sans doute n'en avait-elle pas besoin, car elle semblait appartenir à une catégorie d'êtres dont les facultés et l'organisme ne relevaient pas du monde purement physique. Un instant plus tard, Carter comprit que c'était effectivement le cas, car la forme venait de s'adresser à son esprit sans utiliser ni son ni langage. Et bien que le nom qu'elle avait prononcé fût terrible et redoutable, Randolph Carter ne succomba pas à la peur. Au contraire, il répondit lui aussi sans se servir ni de son ni de langage, et présenta les hommages que le hideux Necronomicon lui avait enseignés. Car cette forme n'était rien de moins que celle que le monde entier craignait depuis que l'Omar était sorti de la terre et que les choses ailées étaient venues sur terre pour enseigner l'ancien savoir aux hommes. Il s'agissait, en effet, du terrifiant guide et gardien de la porte, Umr At-Tawil, l'ancien, dont le scribe avait traduit le nom par « celui dont la vie a été prolongée ». Le guide connaissait, parce qu'il connaissait toute chose, la quête et la venue de Carter. Il savait que cet arpenteur des rêves et de secrets se tenait sans crainte devant lui. Le guide n'irradiait ni horreur ni malignité, si bien que Carter se demanda un instant si les terribles allusions blasphématoires de l'arabe fou et les extraits du livre de Thoth ne provenaient pas de l'envie et du désir contrarié de faire ce qui était à présent sur le point d'être fait. À moins que le guide ne réservât son horreur et sa malignité à ceux qui avaient peur. Les radiations se poursuivirent, et Carter les interpréta mentalement sous la forme de mots. « Je suis en effet ce plus ancien que tu connais, » dit le guide. « Nous t'attendions, les anciens et moi. Tu es le bienvenu, même si tu es très en retard. Tu as la clé et tu as ouvert la première porte. Maintenant, la porte ultime est prête pour ton épreuve. » Si tu as peur, tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Tu peux toujours revenir sur tes pas et repartir sain et sauf d'où tu viens. Mais si tu choisis d'avancer... » La pause ne présageait rien de bon, mais les radiations continuaient d'être amicales. Carter n'hésita pas un seul instant, car une curiosité dévorante le poussait à poursuivre. « J'irai plus loin, » irradia-t-il à son tour, « et j'accepte que vous soyez mon guide. » À cette réponse, certains mouvements de la tunique du guide correspondant peut-être ou non à un geste du bras ou d'un quelconque autre membre semblèrent signaler qu'il avait esquissé un signe. Un second signe suivit, et Carter sut alors, grâce à tout le savoir dont il s'était si bien imprégné, qu'il était enfin arrivé très près de la porte ultime. La lumière prit une autre couleur, tout aussi inexplicable que la précédente, et les formes sur les piédestaux quasi hexagonaux devinrent plus nettes. Comme elles se tenaient plus droites, leurs contours commencèrent à ressembler un peu plus à ceux des hommes, même si Carter savait qu'elles ne pouvaient être humaines. Leurs têtes voilées semblaient à présent coiffées de hautes mitres de couleurs incertaines, qui rappelaient bizarrement ces images innommables qu'un artiste depuis longtemps oublié avait sculptées sur les falaises vivantes d'une haute montagne interdite de Tartarie. Enfin, certains plis de leurs bandelettes retenaient de longs sceptres dont les têtes sculptées incarnaient encore un autre mystère, grotesque et archaïque. Carter devina ce qu'elles étaient, d'où elles venaient et qui elles servaient. Il devina aussi le prix de leur service. Mais cela ne l'empêcha pas de se réjouir, car une seule, bien que considérable, prise de risque allait lui permettre d'apprendre tous les secrets de l'univers. La damnation, songea-t-il, n'est qu'un mot brandi par ceux que leur aveuglement conduit à condamner ceux qui peuvent voir, ne serait-ce que d'un œil. Il s'étonna de l'immense suffisance de ceux qui avaient débité de telles âneries au sujet de la malveillance des anciens, comme s'ils avaient pu sortir de leurs rêves éternels pour décharger leur courroux sur l'humanité. Autant imaginer un mammouth prendre la peine de se venger frénétiquement d'un asticot, pensa-t-il. C'est alors que toutes les formes sur les piliers vaguement hexagonaux le saluèrent en agitant leurs sceptres mystérieusement sculptés et irradièrent un message qu'il comprit.
« Nous te saluons, ô plus ancien, ainsi que toi, Randolph Carter, dont l'audace a fait de toi l'un des nôtres. »
Carter vit que l'un des piédestaux était inoccupé. Un geste du plus ancien lui apprit qu'il lui était réservé. Il vit aussi un autre piédestal, plus haut que les autres, au centre de cette ligne étrangement incurvée, qui n'était ni un demi-cercle, ni une ellipse, ni une parabole, ni une hyperbole, formée par les piédestaux. Il devina qu'il devait s'agir du trône du guide en personne. Se déplaçant et s'élevant d'une manière difficilement définissable, Carter prit place sur son siège, et ce faisant, il vit que le guide s'était assis de même. Progressivement, comme émergeant d'un brouillard, il devint clair que le plus ancien tenait quelque chose dans les plis de sa tunique, une sorte d'objet qu'il présentait à la vue des compagnons voilés, ou du moins à ce qui leur tenait lieu de vue. Il s'agissait d'une grande sphère, ou apparence de sphère, fabriquée dans une espèce de métal obscurément iridescent. Lorsque le guide la tint devant lui, une sourde et pénétrante semi-impression de son commença à monter et descendre à intervalles qui semblaient réguliers, même s'il ne suivait aucun rythme terrestre. Il y eut une suggestion de chant, ou de ce que l'imagination humaine aurait pu interpréter comme un chant. La sorte de sphère devint lumineuse, puis émit une lumière froide d'une couleur indéfinissable. Carter s'aperçut que ses pulsations battaient au rythme extraterrestre du chant. Alors, sur les piédestaux, toutes les formes dotées d'une mitre et d'un sceptre commencèrent à se balancer doucement et curieusement sur le même inexplicable rythme, alors que des nimbes d'une lumière indéfinissable, ressemblant à celle de la pseudosphère, se mettaient à tourner autour de leur tête voilée. L'hindou interrompit son récit et regarda bizarrement la grande horloge en forme de cercueil, ses quatre aiguilles et son cadran couverts de hiéroglyphes, dont le tic-tac démentiel ne correspondait à rien de terrestre.
« Vous, monsieur de Marigny, dit-il soudain à son hôte érudit, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise sur quel étrange rythme particulier ces formes voilées chantaient et dodelinaient de la tête sur leurs piliers hexagonaux. Vous êtes le seul autre en Amérique à avoir eu un avant-goût de l'extension transdimensionnelle. Je suppose que cette horloge vous a été envoyée par le yogi dont ce pauvre Harley Warren avait coutume de parler, ce voyant qui se prétendait l'unique mortel ayant atteint ce legs secret du sinistre et antédiluvien Leng, la terrible cité interdite de Yan Ho, où il avait dérobé certains objets. Parmi ses plus secrètes caractéristiques, combien en connaissez-vous? Si mes lectures et mes rêves sont exacts, cette horloge a été fabriquée par ceux qui savent beaucoup de choses sur la première porte. Mais permettez-moi de poursuivre mon récit. Enfin, continua le pandit, les balancements et l'impression de chant cessèrent, les nimbes chatoyants entourant les têtes à présent immobiles et baissées se dissipèrent, tandis que les formes voilées s'affaissaient curieusement sur leurs piédestaux. La pseudosphère, cependant, continuait à émettre des pulsations de lumière indéfinissables. Carter comprit que les anciens dormaient à présent comme lorsqu'il les avait vus pour la première fois, et il se demanda de quel rêve cosmique son arrivée les avait tirés. Alors, lentement, une vérité s'insinua dans son esprit. Cet étrange chant rituel était un chant d'instruction. Le plus ancien, au moyen d'un chant, avait plongé ses compagnons dans un nouveau genre de sommeil très particulier, afin de permettre à leur rêve d'ouvrir la porte ultime pour laquelle la clé d'argent constituait un passeport. Carter savait que, dans les tréfonds de ce profond sommeil, les formes contemplaient ces insondables immensités de pure et absolue extériorité étrangère à la terre, et qu'elles étaient sur le point d'accomplir ce que sa présence avait commandé. Le guide ne partageait pas ce sommeil, mais paraissait continuer à transmettre des instructions d'une manière insaisissable et silencieuse. De toute évidence, il implantait dans l'esprit de ses compagnons des images de ces choses dont il voulait qu'ils rêvent. Carter sut alors que le germe d'une manifestation visible pour ses propres yeux terrestres naîtrait lorsque chacun des anciens se serait représenté la pensée prescrite. Quand les rêves de toutes les formes se seraient unifiés en un seul et même songe, cette manifestation se produirait, et tout ce dont il aurait besoin se matérialiserait par la concentration. Il avait déjà assisté à de tels phénomènes sur Terre, en Inde, où les volontés combinées et projetées d'un cercle d'adeptes pouvaient donner une substance tangible à une pensée, ainsi que dans cet Atlaanat, blanchi par les âges dont peu d'hommes osent parler. Carter n'avait aucune idée précise de ce qu'était la porte ultime ou de la manière dont il devrait la franchir, mais il était plein d'un enthousiasme débordant. Il avait conscience de posséder une sorte de corps et de tenir dans sa main la clé d'argent dont son destin dépendait. Les hautes masses de pierre qui lui faisaient face semblaient aussi lisses qu'un mur dont le centre attirait irrésistiblement son regard. Puis, soudain, il sentit que les courants mentaux du plus ancien avaient cessé de couler. Pour la première fois, Carter comprit à quel point le silence absolu, mental et physique, pouvait être terrifiant. Jusqu'alors, il n'avait cessé de percevoir une sorte de battement, ne fût-ce que la douce et mystérieuse pulsation de l'extension dimensionnelle de la Terre. Mais à présent, le silence infini des abîmes semblait s'être abattu sur toute chose.
Alors qu'il semblait posséder un corps, il n'avait aucun souffle audible. Quant à la sorte de sphère d'Umr at-Tawil, son éclat s'était comme pétrifié et avait cessé de vibrer. Un nimbe éclatant, plus brillant que ceux qui avaient joué autour des têtes déformes, scintillait d'une lumière de glace sur le crâne voilé du terrible guide. Carter fut pris d'un vertige et se sentit un millier de fois plus désorienté. Les étranges lumières semblaient posséder la qualité d'impénétrables ténèbres amoncelées par-dessus d'autres ténèbres, alors qu'autour des anciens, si proches sur leur trône pseudo-hexagonaux, planait un air qui semblait provenir de distances stupéfiantes. Puis il eut la sensation d'être plongé au plus profond d'insondables profondeurs et sentit de chaudes vagues parfumées clapoter sur son visage. C'était comme s'il flottait dans une mer torride et teintée de rose, une mer de vin opiacé dont les vagues s'écrasaient, écumantes, sur des rivages de feu. Lorsqu'il vit cette vaste étendue de mer houleuse s'écraser sur ses côtes lointaines, il fut saisi d'une frayeur intense. Mais le silence s'interrompit. La houle lui parlait dans un langage qui n'était composé ni de son physique, ni de mots articulés.
« L'homme de vérité est par-delà le bien et le mal »,
psalmodia une voix qui n'était pas une voix.
L'homme de vérité s'est élevé au rang de tout est un. L'homme de vérité a appris que l'illusion est l'unique réalité et que la substance est une mystificatrice.
C'est alors que dans cette masse de maçonnerie vers laquelle son regard avait été irrésistiblement attiré, apparurent les contours d'une arche titanesque ressemblant à celle qu'il croyait avoir aperçue en des temps reculés, dans cette grotte à l'intérieur d'une grotte, sur la lointaine et irréelle surface de cette terre en trois dimensions. Il se rendit compte qu'il avait utilisé la clé d'argent, qu'il l'avait manipulée conformément à un rituel instinctif et inné, similaire à celui qui lui avait permis d'ouvrir la première porte. Il comprit alors que la mer d'un rose d'ivresse qui clapotait contre ses joues n'était ni plus ni moins que la masse adamantine du mur solide cédant à son incantation, jointe au tourbillon de pensées que les anciens avaient formées pour l'aider dans son incantation. Toujours guidé par l'instinct et une aveugle détermination, il flotta droit devant lui et franchit la porte ultime. La progression de Randolph Carter à travers cette masse cyclopéenne de maçonnerie anormale ressemblait à une plongée vertigineuse au sein des gouffres insondables qui séparent les étoiles. Il sentit arriver de très loin, pareilles à des dieux, des vagues triomphantes d'une douceur mortelle. Puis il perçut le bruissement de grandes ailes et des évocations de sons ressemblant au pépiment et au murmure de choses qui n'existent ni sur Terre ni dans le système solaire. Jetant un coup d'œil en arrière, il vit qu'il n'y avait pas une seule et unique porte, mais une multitude. Devant quelques-unes d'entre elles vociféraient des formes qu'il s'efforça d'oublier. C'est alors qu'il ressentit soudain une terreur plus grande que l'effroi causé par n'importe quelle forme, une terreur à laquelle il ne pouvait échapper, parce qu'elle était issue de lui-même. La première porte elle-même, quand elle lui avait pris un peu de ce qu'il y avait de stable en lui, l'amenant à s'interroger sur sa propre forme et sur la nature des liens qui l'unissaient aux vagues silhouettes des alentours, n'avait pas altéré à ce point son sentiment d'unité. Il continuait d'être Randolph Carter, un point fixe dans l'effervescence dimensionnelle. Mais à présent qu'il se trouvait de l'autre côté de la porte ultime, il se rendait compte avec une terreur dévorante qu'il n'était pas une seule et unique personne, mais plusieurs. Il se trouvait en plusieurs endroits différents, au même moment. Sur Terre, le 7 octobre 1883, un petit garçon nommé Randolph Carter sortait de la tanière du serpent dans la lumière tamisée de la soirée et traversait en courant la pente rocailleuse puis le verger aux rameaux crochus pour rejoindre la maison de son oncle Christopher dans les collines derrière Arkham, tandis qu'au même moment, et néanmoins au cours de l'année terrestre 1928, une ombre vague qui n'était pas moins ce même Randolph Carter siégeait sur un piédestal aux côtés des anciens, dans l'extension transdimensionnelle de la Terre. Et dans cet abîme cosmique, mystérieux et informe, situé de l'autre côté de la porte ultime, il y avait également un troisième Randolph Carter. Et ailleurs, dans un chaos de scènes dont l'infinie multiplicité et la monstrueuse diversité conduisirent Carter au bord de la folie, se trouvait une foule confuse et innombrable d'êtres qui étaient, il le savait, autant lui-même que la manifestation locale qui venait de franchir la porte ultime. Il y avait des Carter à toutes les époques connues et présumées de l'histoire de la Terre, et même à des époques encore plus reculées, où régnaient des entités terrestres qui transcendaient toute connaissance, toute intuition, toute vraisemblance. Des Carter de forme à la fois humaine et non humaine, vertébrés et invertébrés, doués de conscience et privés de conscience, animales et végétales. Pire, il y avait des Carter qui n'avaient rien de commun avec la vie terrestre, mais qui se déplaçaient abominablement sur d'autres planètes, systèmes solaires, galaxies et continuités cosmiques. Des spores de vie éternelle qui dérivaient d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, et qui pourtant étaient aussi lui-même. Certaines de ses visions lui rappelaient ses rêves, à la fois indistincts et éclatants, brefs et persistants, qu'il avait fait pendant toutes ces longues années, depuis qu'il avait commencé à rêver pour la première fois. Et certaines de ses visions le hantaient et le fascinaient comme si elles lui étaient horriblement familières, ce qu'aucune logique terrestre n'aurait pu expliquer. Face à cette prise de conscience, Randolph Carter vacilla sous l'emprise d'une horreur suprême, une horreur qui dépassait de très loin la pire des horreurs qu'il aurait pu imaginer au summum de cette nuit affreuse, quand il s'était aventuré à deux dans une antique nécropole abhorrée sous une lune blafarde et qu'un seul en était revenu. Aucune mort, aucune damnation, aucune angoisse ne saurait rendre l'incommensurable désespoir qui découle de la perte d'identité. Fusionner avec le néant mène à l'oubli paisible. Mais être conscient de son existence, et cependant savoir que l'on n'est plus un être défini, distinct d'autres êtres, que l'on n'a plus de soi, voilà l'indescriptible sommet de l'épouvante et de l'agonie. Il savait qu'un Randolph Carter de Boston avait existé, et pourtant il n'arrivait pas à savoir si celui qu'il était à présent, ce fragment ou cette facette d'une entité terrestre qui avait franchi la porte ultime, avait été celui-ci ou un autre. Son soi avait été annihilé. Et cependant, il, si une telle chose qu'un il pouvait encore exister au regard de cette absolue inexistence de l'existence individuelle, il, donc, était également conscient d'être, bien que ce fût inconcevable, une légion de soi. C'était comme si son corps avait été soudain transformé en l'une de ces effigies dotées de moult membres et têtes sculptées dans les temples indiens. Il contemplait cet agrégat en s'efforçant de distinguer, malgré sa stupeur, l'original de toutes ces additions, à condition, pensée suprêmement monstrueuse, qu'il eût jamais existé un original distinct des autres incarnations. Ensuite, alors qu'il se livrait à toutes ces réflexions dévastatrices, le fragment de Carter qui avait franchi la porte ultime fut projeté hors de ce qui avait semblé être le summum de l'horreur et précipité au fond de fosses noires où l'étreignit une horreur encore plus profonde. Cette fois, cela provenait principalement de l'extérieur, c'était une force ou une personnalité qui brusquement l'attaquait, l'entourait et s'insinuait en lui, et qui non seulement était doté de sa propre présence locale, mais semblait également faire partie de lui-même tout en coexistant avec toutes les époques et en étant contigu avec l'univers entier. Il n'y avait pas de manifestation visible, mais le fait de sentir cette entité, ajoutée à cette affreuse combinaison de concepts de situation, d'identité et d'infinité, induisait une terreur paralysante dépassant tout ce qu'aucun fragment de Carter avait cru jusque-là possible. Face à ce redoutable prodige, le quasi-Carter oublia l'horrible anéantissement de son individualité. C'était un tout en un et un en tout d'une infinité d'êtres et de soi, une chose appartenant non seulement à un unique continuum d'espace-temps, mais faisant partie intégrante de l'ultime essence agissante de cette vague infinie d'existence, l'ultime vague absolue qui n'est limitée par rien et qui transcende aussi bien l'imagination que les mathématiques. C'était peut-être ce dont certains cultes secrets de la Terre parlent à voix basse comme étant Yog-Sothoth, qui fut un dieu sous d'autres noms. Ce que les crustacés de Yugoth adorent sous le nom de « celui qui est au-delà » et que les cerveaux vaporeux des nébuleuses en spirale désignent d'un signe intraduisible, ce qui n'empêcha pas la facette Carter de comprendre en un éclair à quel point toutes ces conceptions étaient superficielles et fragmentaires. Maintenant, l'être s'adressait à la facette Carter en vagues prodigieuses qui déferlaient, brûlaient et tonnaient, une concentration d'énergie qui anéantit celui qui l'a reçu avec une violence presque insoutenable, et dont le rythme extraterrestre rappelait, quoique avec certaines variations bien précises, le rythme si particulier qui avait caractérisé les chants et les balancements des anciens, ainsi que les clignotements des monstrueuses lumières dans la déconcertante région située de l'autre côté de la première porte. C'était comme si tous les soleils, les mondes et les univers avaient convergé vers un seul et unique point, après avoir projeté d'annihiler sa position par un choc d'une violence irrésistible. Mais au sein de cette grande terreur, une autre, moins forte, s'atténua. Car les vagues incandescentes semblèrent inexplicablement isoler le Carter de l'autre côté de la porte de son infinité de répliques, lui restituant, en quelque sorte, une certaine quantité d'illusions d'identité. Au bout d'un certain temps, le discours des vagues lui devint peu à peu compréhensible, et Carter sentit son sentiment d'horreur et d'oppression s'estomper. L'épouvante se mua en simple crainte respectueuse, et ce qui avait semblé diaboliquement anormal n'était plus désormais qu'ineffablement majestueux. Et cela sembla dire « Randolph Carter, en t'envoyant ici, mes manifestations sur l'extension de ta planète, les anciens, ont envoyé celui qui serait par la suite retourné aux petites contrées du rêve qu'il avait perdu, et qui, avec une liberté supérieure, s'est élevé vers des désirs et des aspirations plus nobles et plus grands. Tu souhaitais remonter l'Oukranos doré, rechercher les marmoréennes cités oubliées dans la clède parsemée d'orchidées et régner sur le trône d'opale d'Ilagvad, dont les tours fabuleuses et les innombrables dômes s'élèvent majestueusement vers l'unique étoile rouge d'un firmament étranger à ta terre et à toute matière. Mais maintenant que tu as franchi les deux portes, tu aspires à des choses encore plus élevées. Ton désir n'est pas de fuir comme un enfant une scène détestable pour te réfugier dans un rêve agréable, mais de plonger comme un homme dans le dernier et plus intime secret qui se trouve par-delà toutes les scènes et tous les rêves. Ce que tu souhaites, je l'ai trouvé bon. et je suis prêt à t'accorder ce que je n'ai accordé que 11 fois à des êtres de ta planète, 5 fois seulement à ceux que tu appelles « hommes » ou à ceux qui leur ressemblent. Je suis prêt à te montrer le mystère ultime, que le faible d'esprit ne saurait entrevoir sans être annihilé. Pourtant, avant de pouvoir contempler totalement ce premier et dernier des secrets, tu as encore la liberté de choisir, et si tel est ton souhait, refranchir les 2 portes avec le voile toujours intact devant tes yeux. Soudain, les vagues s'arrêtèrent et Carter se retrouva dans un silence glacial et terrifiant où planait l'esprit de la désolation. L'immensité du vide infini le pressait de partout, et pourtant le voyageur savait que l'être était toujours là. Au bout d'un moment, il pensa des mots dont il projeta la substance mentale dans l'abîme. « J'accepte. Je ne reculerai pas. » Les vagues reprirent leur mouvement, et Carter sut que l'être avait entendu. De l'esprit illimité jaillissait à présent un flot de connaissances et d'explications qui lui ouvraient de nouvelles perspectives et le préparèrent à appréhender le cosmos comme jamais il n'eût osé l'espérer. On lui parla du caractère enfantin et limité de la notion de monde tridimensionnel et de l'infinité de directions existant en dehors de celles que nous connaissons, en haut et en bas, devant et derrière, à droite et à gauche. On lui montra l'insignifiance et la futilité des petits dieux de la Terre, avec leurs passions et leurs intérêts humains pareillement ridicules, leur haine, leur courroux, leurs amours et leurs vanités, leur soif d'honneur et de sacrifice, et leur manie d'exiger une foi contraire à la raison et à la nature. Alors que la plupart des impressions se traduisaient d'elles-mêmes en paroles dans l'esprit de Carter, il lui était possible d'en interpréter d'autres avec des sens différents. Il percevait, peut-être avec ses yeux, peut-être avec son imagination, qu'il se trouvait dans une région aux dimensions inconcevables pour l'œil et le cerveau humain. À présent, au sein de ce magma d'ombre qui avait été un vortex de puissance puis un vide illimité, il voyait un maelstrom de création qui étourdissait ses sens. Du haut de quelques points de vue inconcevables, il dominait des formes prodigieuses dont les multiples extensions transcendaient tout ce que son esprit avait jusque-là été capable d'imaginer en termes d'être, de taille et de limite, malgré toute une vie consacrée à l'étude de l'occultisme. Il commençait confusément à comprendre pourquoi il pouvait exister, au même moment, un petit garçon nommé Randolph Carter dans cette ferme d'Arkham en 1883, la forme vaporeuse sur le pilier vaguement hexagonal situé de l'autre côté de la première porte, le fragment qui faisait face à la présence dans l'abîme infini, et tous les autres Carter que son imagination ou sa perception pouvait concevoir. Puis la force des vagues s'intensifia, cherchant à améliorer sa compréhension, à le réconcilier avec l'entité protéiforme dont son actuel fragment n'était qu'une partie infinitésimale. Elles lui dirent que les figures de l'espace ne sont que le résultat de l'introspection par un plan d'autres figures qui leur correspondent dans une dimension immédiatement supérieure, de même qu'un carré n'est qu'une section de cube, ou un cercle, une section de sphère. Ainsi, le cube et la sphère, à 3 dimensions, sont des sections de ces formes à 4 dimensions qui leur correspondent et que les hommes ne connaissent que dans leurs hypothèses et leurs rêves. Ces formes sont à leur tour des sections de leurs équivalents à 5 dimensions, et ainsi de suite jusqu'aux hauteurs vertigineuses et inaccessibles de l'infinité archétypale. Le monde des hommes et des dieux des hommes n'est guère qu'une phase infinitésimale d'une chose infinitésimale, la phase à trois dimensions de ce petit univers qu'on atteignait par la première porte, où Umr at-Tawil dictait des rêves aux anciens. Même si les hommes vénéraient leur monde en l'appelant réalité et dénigraient les pensées issues de son original à plusieurs dimensions en les appelant irréalité, c'était en fait exactement le contraire. Ce que nous appelons substance et réalité n'est qu'ombre et illusion, et ce que nous appelons ombre et illusion est substance et réalité. Les vagues lui dirent aussi que le temps est immobile et n'a ni commencement ni fin. Qu'il ait un mouvement et soit cause de changement est une illusion. Il n'est d'ailleurs lui-même qu'une illusion, car, hormis pour le point de vue étriqué des habitants des dimensions limitées, il n'existe pas de choses telles que le passé, le présent et le futur. Les hommes ne pensent au temps qu'à cause de ce qu'ils appellent le changement, mais cela aussi est une illusion. Tout ce qui était, est et sera existe simultanément. Ces révélations furent faites à Carter avec une solennité si divine qu'il fut incapable de les mettre en doute. Même si elles se trouvaient presque hors de sa compréhension, il sentit qu'elles étaient sans doute vraies à la lumière de cette ultime réalité cosmique qui démentait toutes les perspectives locales et tous les points de vue partiels et étriqués. Et il s'était suffisamment familiarisé avec les spéculations les plus profondes pour se libérer de toutes les conceptions locales et partielles. D'ailleurs, sa quête entière ne reposait-elle pas sur sa foi en l'irréalité de ce qui était local et partiel ? Après une pause impressionnante, les vagues reprirent leur discours. Elles lui dirent que ce que les habitants des zones à peu de dimensions appellent changement n'est qu'une fonction de leur conscience, laquelle se représente le monde extérieur sous différents angles cosmiques. Ainsi, de même que la forme obtenue par la section d'un cône semble varier en fonction de l'angle de l'intersection, elle peut produire un cercle, une ellipse, une parabole ou une hyperbole en fonction de l'angle de la section, le cône restant inchangé. Les aspects locaux d'une réalité immuable et infinie semblent se modifier en fonction de l'angle cosmique à partir duquel on les regarde. Les faibles habitants des mondes inférieurs sont soumis à cette variété d'angles de conscience puisque, à de rares exceptions près, ils ne peuvent apprendre à les contrôler. Seuls quelques hommes ayant étudié les choses interdites ont acquis un soupçon de contrôle, grâce auquel ils ont conquis le temps et le changement. Mais les entités hors des portes commandent à tous les angles et peuvent voir à volonté soit l'une ou l'autre des innombrables facettes du cosmos sujettes au changement, soit la totalité immuable qui se trouve au-delà de toute perspective. Les vagues s'interrompant à nouveau, Carter commença faiblement et non sans terreur à comprendre dans quel contexte s'inscrivait cette énigmatique perte d'individualité qui l'avait tant horrifié au début. Son intuition fit la synthèse de tous ces fragments de révélation, le rapprochant de plus en plus de la compréhension du secret. Il comprit qu'une bonne partie de cette effrayante révélation l'aurait saisi dès le passage de la première porte, éparpillant son ego en une myriade d'équivalents terrestres, si la magie de Umr at-Tawil ne l'en avait préservé afin de lui permettre d'utiliser la clé d'argent avec précision pour l'ouverture de la porte ultime. Soucieux d'en savoir davantage, il émit de vagues pensées demandant qu'on lui explique la nature exacte de la relation qui unissait ces nombreuses facettes, le fragment qui avait franchi la porte ultime, le fragment qui se trouvait toujours sur le piédestal quasi hexagonal de l'autre côté de la première porte, le petit garçon de 1883, l'homme de 1928, les diverses entités ancestrales qui avaient composé son héritage et les fondations de son ego, et les habitants indéfinissables des autres éternités et des autres mondes que ce premier et terrible éclair de perception ultime avait identifié à lui. Lentement, les vagues de lettres surgirent pour lui répondre, essayant de rendre intelligible ce qui était pratiquement incompréhensible pour un esprit terrestre. Toutes les lignées d'êtres descendant des dimensions limitées, dirent les vagues, et chacune des étapes de croissance de chacun de ces êtres ne sont en fait que les manifestations d'un archétype éternel situé dans un espace extradimensionnel. Chaque être local, fils, père, grand-père et ainsi de suite, et chaque étape de chaque individu, petit enfant, enfant, adolescent, jeune homme, vieil homme, ne sont en fait qu'une des phases de l'infinité de phases composant l'archétype éternel, chaque phase résultant d'une variation de l'angle du plan de conscience sectionnant cet archétype. Randolph Carter a tous les âges, Randolph Carter et tous ses ancêtres à la fois humains et préhumains, terrestres et préterrestres, tous ne sont que les phases d'un ultime et éternel Carter hors de l'espace et du temps, des projections fantômes qui ne se distinguent que par l'angle auquel le plan de conscience sectionne l'archétype éternel. Une infime variation de l'angle pouvait transformer l'érudit d'aujourd'hui en l'enfant d'hier. Transformer Randolph Carter en Edmund Carter, ce sorcier qui avait fui Salem en 1692 pour aller dans les collines situées derrière Arkham, ou en ce Pickman Carter qui, en l'an 2169, utiliserait d'étranges moyens pour chasser les hordes mongoles d'Australie. Transformer un Carter humain en l'une de ces entités antédiluviennes qui avaient habité l'hyperborée primitive et voué un culte aux noirs et plastiformes Tsatogwa, après être descendu en volant de Kitanil, la planète double qui avait jadis orbité autour d'Arcturus. Transformer un Carter terrestre en un lointain ancêtre à la forme à peine imaginable, habitant Kitanil même, ou en une créature encore plus éloignée, un habitant de la planète Stronti, dans une autre galaxie, ou en une conscience gazeuse à quatre dimensions dans une continuité spatio-temporelle plus ancienne encore, ou en un cerveau végétal du futur sur une comète noire et radioactive à l'orbite inconcevable, et ainsi de suite dans le cercle cosmique infini. Dans leur incessant mouvement, les vagues lui expliquèrent que les archétypes peuplent l'abîme ultime, informe, ineffable, et dont seule une poignée de rêveurs habitant les mondes des dimensions inférieures ont l'intuition. Leur chef était cet être qui émettait des informations, et qui n'était nul autre que le propre archétype de Carter. La soif insatiable qu'avaient Carter et tous ses ancêtres des secrets cosmiques interdits était la conséquence naturelle de leur filiation avec l'archétype suprême. Dans chaque monde, tous les grands magiciens, tous les grands penseurs, tous les grands artistes sont des facettes de lui. La conscience d'un Randolph Carter à demi assommé par un mélange de crainte respectueuse et de joie terrifiante rendit hommage à l'entité transcendante dont il était issu. Alors que les vagues faisaient une nouvelle pause, il médita dans le formidable silence qui s'était installé, réfléchissant à d'étranges hommages, à de plus étranges questions et à des requêtes plus étranges encore. Des torrents de singuliers concepts s'entrechoquaient dans son cerveau sidéré par autant de perspectives inhabituelles et de découvertes surprenantes. Il lui vint à l'esprit que si ces révélations étaient à prendre au pied de la lettre, il était doté de la possibilité physique de visiter toutes ces époques et toutes ces parties de l'univers infiniment éloigné qu'il n'avait jusqu'alors connu qu'en rêve. Il lui suffisait pour cela d'ordonner à la magie de modifier l'angle de son plan de conscience. La clé d'argent ne lui fournissait-elle pas cette magie? Ne l'avait-elle pas déjà changé d'un homme de 1928 en un petit garçon de 1883, puis en quelque chose de totalement hors du temps? Bizarrement, malgré son apparente absence de corps, il savait que la clé était toujours avec lui. Comme le silence se prolongeait, Randolph Carter irradia les pensées et les questions qui l'assaillaient. Il savait que là, dans cet abîme ultime, il se trouvait à égale distance de toutes les facettes de son archétype, humaines ou non humaines, terrestres ou extraterrestres, galactiques ou transgalactiques. Et il se sentait consumé par l'envie de découvrir les autres phases de son être, surtout les plus éloignées dans le temps et l'espace de l'année 1928 sur Terre, ou celles qui avaient hanté ses rêves avec persistance tout au long de sa vie. Il sentait que son entité archétypale pouvait à volonté, en changeant son plan de conscience, lui permettre d'incarner physiquement chacune de ces phases très éloignées dans l'espace et le temps. Et malgré les merveilles qu'il venait de découvrir, il brûlait de connaître cette merveille encore plus incroyable, arpenter physiquement ces paysages grotesques et incroyables que ses visions nocturnes lui avaient révélés de manière fragmentaire. Sans raison particulière, il demanda à la présence de lui permettre d'accéder à un monde pâle et fantastique dont les cinq soleils multicolores, les constellations extraterrestres, les vertigineuses falaises de roches noires, les habitants griffus à museaux de tapir, les bizarres tours de métal, les mystérieux tunnels ainsi que les étranges cylindres flottants avaient moult fois fait irruption dans ses rêves. Il pressentait confusément que de tous les mondes du cosmos concevables, celui-là était le plus librement en contact avec les autres. Il avait hâte d'explorer les paysages dont il avait entreaperçu les prémices et de s'embarquer à travers l'espace vers ces mondes encore plus éloignés avec lesquels les habitants griffus à museaux de tapir étaient en relation. Le temps n'était plus à la peur. Comme dans toutes les autres crises de son étrange vie, une pure curiosité cosmique l'emportait sur tout le reste. Quand les vagues reprirent leurs impressionnantes pulsations, Carter sut que sa terrible requête lui avait été accordée. L'être lui parla des abîmes de nuit qu'il devrait traverser, de la quintuple étoile inconnue appartenant à cette galaxie insoupçonnée autour de laquelle ce monde étranger orbitait, et de ces horribles fouisseuses souterraines contre lesquelles la race griffue à museau de tapir de ce monde luttait en permanence. La présence lui dit aussi de combien devrait être simultanément incliné l'angle de son plan de conscience personnel et l'angle de son plan de conscience en rapport avec les éléments spatio-temporels du monde qu'il cherchait à atteindre, afin de permettre à la facette Carter qui habitait ce monde de le regagner. L'être le prévint que s'il souhaitait un jour revenir du lointain monde étranger qu'il avait choisi de visiter, il lui faudrait s'assurer de ses symboles. Alors Carter irradia une approbation impatiente, certain que la clé d'argent, dont il sentait la présence à ses côtés et à l'aide de laquelle il avait incliné à la fois son plan personnel et celui du monde quand elle l'avait renvoyé en 1883, contenait les symboles en question. En réponse à son impatience, l'être lui signifia qu'il était prêt à accomplir la monstrueuse projection. Les vagues s'interrompirent brusquement et furent remplacées par une accalmie passagère pleine d'une redoutable et indicible attente. Puis, sans prévenir, surgirent alors un vrombissement et des roulements de tambour qui s'enflèrent en un tonnerre terrifiant. Une fois encore, Carter se sentit le point focal d'une intense concentration d'énergie qui le brisait, le martelait et le brûlait insupportablement sur le rythme étrange et désormais familier de l'espace extérieur, énergie qu'il pouvait définir comme relevant à la fois de la chaleur destructrice d'une étoile incandescente ou du froid absolument pétrifiant de l'abîme ultime. Des bandes et des rayons d'une couleur totalement étrangère à tous les spectres de notre univers jouèrent et s'entrelacèrent devant lui, tandis qu'il prenait conscience d'un déplacement d'une vitesse fulgurante. Il eut la vision fugitive d'une silhouette assise seule sur un trône nuageux, plus hexagonal qu'autre chose. Comme l'hindou interrompait son récit, il vit que Marini et Phillips le contemplaient d'un air absorbé. Aspinwall faisait mine d'ignorer son histoire, gardant les yeux ostensiblement rivés sur les papiers étalés devant lui. Le tic-tac extraterrestre de l'horloge en forme de cercueil prit une nouvelle et funeste signification, tandis que les vapeurs entrelacées des trépieds négligés prenaient des formes inexplicables et fantastiques qui s'accordaient de manière troublante avec les motifs grotesques des tapisseries animées par les courants d'air. Le vieux nègre qui s'en était occupé avait filé à l'anglaise, la tension grandissante l'ayant peut-être effrayé au point de lui faire quitter la maison. Le narrateur eut une sorte d'hésitation, comme s'il s'excusait par avance de ce qu'il allait leur dire de sa voix bizarrement affectée mais idiomatiquement impeccable. « Sans doute avez-vous trouvé difficiles à croire toutes ces choses au sujet de l'abîme, » dit-il. « Mais vous aurez encore plus de mal à croire toutes les choses tangibles et matérielles dont je vais vous parler. Nos esprits sont ainsi faits. Les merveilles sont doublement difficiles à croire quand on les rapporte des régions incertaines d'un possible rêve à notre monde en trois dimensions. Je n'essaierai donc pas de tout vous raconter. Ce serait une autre histoire, une histoire très différente. Je ne vous raconterai que ce que vous devez absolument savoir. » Carter, après cet ultime vortex de rythme extraterrestre et polychrome, se retrouva dans ce qu'il prit un instant pour son vieux rêve récurrent. Comme au cours de nombreuses nuits passées, il marchait dans les rues d'un labyrinthe construit dans un métal inconnu au milieu d'une foule d'êtres griffus à museaux de tapir sous un soleil de diverses couleurs. Lorsqu'il baissa les yeux, il s'aperçut que son corps était semblable à celui des autres créatures, rugueux, partiellement squameux, curieusement articulé à la manière des insectes et cependant non dépourvu d'une caricature de silhouette humaine. Il tenait toujours la clé d'argent, mais dans une griffe horrible à voir. L'instant suivant, la sensation de rêve disparut, et il eut au contraire l'impression qu'il venait de se réveiller. L'abîme ultime, l'être, une entité d'une race absurde et incongrue, appelée Randolph Carter, et qui habitait dans l'avenir un monde qui n'était même pas encore né, faisait partie des choses qui hantaient les rêves insistants et récurrents du magicien Zkaoba de la planète Yadit. Ses rêves étaient trop persistants, ils interféraient avec ses obligations, qui consistaient à tisser des sortilèges pour empêcher les effroyables dôles de sortir de leur terrier, et commençaient à se mélanger aux souvenirs qu'il gardait de la myriade de mondes réels qu'il avait visités dans son enveloppe de lumière. Maintenant, il lui semblait plus réel que jamais. Cette lourde clé d'argent qu'il sentait dans sa griffe antérieure droite, reflet exact d'une autre clé dont il avait rêvé, ne signifiait rien de bon. Il devait se reposer, réfléchir et consulter les tablettes de Ning pour y trouver des conseils sur ce qu'il fallait faire. Après avoir gravi un mur de métal dans une allée à l'écart des lieux d'affluence, il entra dans son appartement et s'approcha de son étagère de tablettes. 7 fractions de jours plus tard, Zkaoba s'accroupit sur son prisme, à moitié désespéré et empli d'une terreur mêlée de vénération, car la vérité avait ouvert un nouvel ensemble de souvenirs contradictoires. Jamais plus il ne connaîtrait la paix d'être une seule et unique entité. Car en tout temps et en tout espace, il était 2. Zkaoba, le magicien de Yadit, dégoûté par le répugnant mammifère terrestre Carter qu'il avait été et serait. Et Randolph Carter, de Boston, sur Terre, tremblant de peur devant la chose griffue à museau de tapir qu'il avait été autrefois et était redevenu. Les unités de temps passées sur Yadit, croassa le pandite dont la voix affectée commençait à trahir des signes de fatigue, sont en elles-mêmes une histoire, impossible à raconter en un temps limité. Il y eut des voyages à Stronti, à M'Tura, à Kat, et sur d'autres mondes à l'intérieur des 28 galaxies accessibles aux enveloppes de lumière des créatures de Yadit, ainsi que des voyages allers et retours à travers des éternités de temps grâce à la clé d'argent et aux divers autres symboles connus des magiciens de Yadit. Il y eut de hideux combats contre les dôles, visqueux et d'une blancheur d'ossement, dans les tunnels primitifs qui criblent la planète. Il y eut des séances d'études où la fascination le disputait à l'horreur, dans des bibliothèques où s'amoncelaient les connaissances de dizaines de milliers de mondes vivants et morts. Il y eut d'intenses conférences avec d'autres esprits de Yadit, notamment celui de l'archi-ancien Bouo. Sgaoba ne raconta à personne ce qui lui était arrivé. Mais quand la facette Randolph Carter prenait le dessus sur sa personnalité, il passait furieusement en revue tous les moyens de revenir sur Terre et de reprendre forme humaine, et s'entraînait désespérément à pratiquer le langage des hommes avec les organes extraterrestres de sa gorge, qui s'y prêtaient particulièrement mal. La facette Carter apprit bientôt avec horreur que la clé d'argent ne lui permettait pas de reprendre forme humaine. Ainsi qu'il le déduisit trop tard de ses souvenirs, de ses rêves et de ce qu'il avait découvert sur Yadit, cette clé avait été fabriquée sur Terre, en hyperborée. Son pouvoir agissait uniquement sur les plans de conscience personnelle des êtres humains. Elle pouvait, cependant, modifier l'angle planétaire et envoyer à volonté son utilisateur n'importe où à travers le temps dans un corps inchangé. Il existait également un sort supplémentaire qui lui conférait les pouvoirs illimités, lui faisant défaut autrement. Mais ce sort était également une découverte humaine, spécifique à une région de l'espace hors d'atteinte, et ne pouvant être reproduite par les magiciens de Yadit. Ce sort avait été écrit sur le parchemin indéchiffrable qui s'était trouvé en même temps que la clé d'argent dans le coffret hideusement sculpté et que Carter regrettait amèrement d'avoir laissé derrière lui. L'être de l'abîme, à présent inaccessible, lui avait bien recommandé de s'assurer de ses symboles et Carter ne s'était pas douté un seul instant que l'un d'eux pût lui faire défaut. Le temps passant, il s'efforça de plus en plus ardemment de mettre à profit les monstrueuses connaissances de Yadit pour trouver un moyen de retourner dans l'abîme auprès de l'entité omnipotente. Fort de son nouveau savoir, il eût pu faire d'énormes progrès dans le déchiffrage du mystérieux parchemin, mais compte tenu des circonstances, ce pouvoir revêtait un caractère de pure ironie. Il arrivait cependant que la facette dominante fût celle de Sgaoba, qui s'efforçait alors d'effacer les mémoires de Carter contradictoires qui le dérangeaient. De longs espaces de temps s'écoulèrent ainsi, trop longs pour être appréhendés par l'esprit humain, car les êtres de Yadit ne meurent qu'après des cycles prolongés. Après plusieurs centaines de révolutions, la facette Carter sembla l'emporter sur la facette Sgaoba. Elle passa alors de vastes périodes de temps à calculer la position dans le temps et l'espace où se trouvait Yadit par rapport à cette terre humaine qui n'existait pas encore. Les chiffres étaient vertigineux, atteignant plus d'éternité d'années-lumière qu'on ne pouvait en compter, mais le savoir immémorial de Yadit permit à Carter d'en prendre la mesure. Il cultiva le pouvoir de se projeter à tout moment en rêve sur la Terre et apprit de nombreuses choses sur notre planète qu'il avait jusque-là ignorées. Mais il n'arrivait pas à rêver de cette formule indispensable inscrite sur le parchemin qu'il avait oublié. jusqu'au jour où il conçut un plan démentiel pour s'échapper de Yadith, qui commença lorsqu'il découvrit une drogue permettant de maintenir sa facette Sgaoba constamment endormie, sans que disparaissent pour autant les connaissances et les souvenirs de Sgaoba. Il pensait que ses calculs lui permettraient d'accomplir, dans une enveloppe de lumière, un voyage tel qu'aucun être de Yadith n'en avait jamais effectué, un voyage corporel qui durerait un nombre incalculable d'éternités et l'emmènerait, par-delà les incroyables immensités galactiques, jusqu'au système solaire et à la Terre elle-même. Une fois sur Terre, et bien que dans le corps d'une créature griffue à museau de tapir, peut-être parviendrait-il à retrouver puis à déchiffrer le parchemin aux étranges hiéroglyphes qu'il avait oubliés dans sa voiture à Arkham. Auquel cas, grâce à ce parchemin et à la clé, il pourrait récupérer son apparence terrestre normale. Il était parfaitement conscient des dangers inhérents à cette tentative. Lorsqu'il aurait incliné l'angle de la planète sur l'éternité désirée, chose impossible à faire quand on filait à travers l'espace, il savait que Yadith serait un monde mort dominé par les dôles triomphants, et que sa fuite dans l'enveloppe de lumière ferait l'objet d'importantes controverses. De même, il était parfaitement au courant de la façon de se plonger en animation suspendue, à la manière des adeptes, afin de supporter cette éternité de voyage à travers les abîmes insondables. À supposer que son voyage réussisse, il savait aussi qu'il devrait s'immuniser contre les bactéries et autres conditions terrestres dangereuses pour un corps de Yadith. Sans compter qu'une fois sur Terre, il lui faudrait trouver un moyen de feindre l'apparence humaine, jusqu'à ce qu'il puisse récupérer et déchiffrer le parchemin et reprendre pour de bon forme humaine. Faute de quoi, il risquait à coup sûr d'être découvert et détruit par des gens épouvantés par ce monstre surnaturel. Il lui faudrait aussi une certaine quantité d'or, heureusement facile à obtenir sur Yadith, afin de survivre le temps de ses recherches. Les plans de Carter progressaient lentement. Il se procura une enveloppe de lumière d'une résistance supérieure, capable de supporter à la fois cette prodigieuse transition temporelle et ce voyage sans précédent à travers l'espace. Il vérifia et revérifia tous ses calculs, et envoya de plus en plus souvent ses rêves vers la Terre, les amenant aussi près que possible de 1928. Il s'exerça à l'animation suspendue avec un succès qui l'enchanta. Il découvrit l'agent bactériologique dont il avait exactement besoin et s'entraîna à supporter les différentes variations de gravité auxquelles il serait exposé. Il se confectionna adroitement un masque de cire et un ample costume qui lui permettrait de se faire passer pour un humain d'une sorte ou d'une autre, et mit au point un sortilège deux fois plus puissant que d'ordinaire pour maintenir les dôles à distance au moment où il quitterait cette Yadith noire et morte qui appartenait à un inconcevable futur. Il prit également soin de réunir une importante quantité de drogues, impossibles à obtenir sur Terre, qui garderait sa facette Sgaoba endormie jusqu'au moment où il pourrait se débarrasser de son corps de Yadith. Et il n'oublia pas non plus d'emporter une petite réserve d'or pour ses besoins terrestres. Le jour du départ fut un moment de doute et d'appréhension. Carter gravit la plateforme de son enveloppe en prétendant s'envoler vers Niton, l'étoile triple, puis rampa dans la gaine de métal brillant. Il avait tout juste la place d'accomplir le rituel de la clé d'argent. Il l'effectua tout en faisant lentement léviter son enveloppe. Le jour se mit alors à bouillonner épouvantablement pendant que les ténèbres recouvraient tout, et il fut traversé par un horrible éclair de douleur. Le cosmos se mit à chanceler follement, tandis que les constellations dansaient dans un ciel noir. Tout à coup, Carter sentit un nouvel équilibre. Le froid des abîmes interstellaires mordit l'extérieur de son enveloppe et il s'aperçut qu'il flottait librement dans l'espace, car le bâtiment de métal d'où il s'était envolé était tombé en ruine des milliers d'années plus tôt. Au-dessous de lui, deux gigantesques dôles grouillaient sur le sol. Et alors même qu'il les regardait, l'un d'eux se souleva de plusieurs centaines de pieds et tourna vers lui une extrémité visqueuse et blanchâtre. Mais les sortilèges de Carter étaient efficaces, et l'instant d'après, il plongeait sain et sauf loin de Yadith. Dans cette pièce bizarre de la Nouvelle-Orléans, d'où le vieux serviteur noir s'était enfui instinctivement, la mystérieuse voix du Pandit Chandraputra devint encore plus rauque.
« Messieurs, continua-t-il, je ne vous demanderai pas de croire à tout cela tant que je ne vous aurai pas montré une preuve irréfutable. Considérez donc plutôt qu'il s'agit d'un mythe, et laissez-moi évoquer pour vous les milliers d'années-lumière, milliers d'années de temps et innombrables milliards de kilomètres que passa Randolph Carter affilé à travers l'espace sous la forme d'une indescriptible entité extraterrestre enfermée dans une fine enveloppe de métal mue par des électrons. Carter avait calculé avec le plus grand soin le temps qu'il devrait rester en animation suspendue, prévoyant d'y mettre fin quelques années seulement avant son atterrissage sur Terre, en 1928 ou dans les environs. Il n'oubliera jamais ce réveil, souvenez-vous, messieurs, qu'avant ce sommeil long comme l'éternité, il avait vécu consciemment pendant des milliers d'années terrestres parmi les horribles merveilles extraterrestres de Yadith. Il sentit l'épouvantable morsure d'un froid atroce, ses rêves pleins de menaces cessèrent et, en jetant un coup d'œil à travers les hublots de l'enveloppe, il se vit entouré d'étoiles, de constellations et de nébuleuses, dont les contours ressemblaient enfin à ceux des constellations de la Terre qu'il connaissait. Un jour, on pourra raconter sa descente dans le système solaire. Il commença par dépasser Kynart et Yugot, puis frôla Neptune et aperçut les répugnants champignons blancs qui la jonchent. Il apprit un secret irracontable en approchant de près les brumes de Jupiter et vit l'horreur nichée sur l'un de ses satellites. Il contempla les ruines cyclopéennes qui s'étendent à perte de vue sur le disque vermeil de Mars. Quand la Terre se rapprocha, il la vit sous la forme d'un fin croissant dont la taille augmenta de manière alarmante. Il décéléra, alors que le sentiment de rentrer à la maison lui donnait l'envie de ne pas perdre un seul instant. Je n'essayerai pas de vous expliquer ces sensations telles que me les a racontées Carter. Bref, vers la fin, Carter plana dans la stratosphère terrestre en attendant que le jour se lève sur l'hémisphère occidental. Il voulait atterrir à l'endroit d'où il était parti, près de la tanière du serpent, dans les collines qui se trouvent derrière Arkham. Si l'un de vous est déjà resté longtemps éloigné de chez lui, et je sais que c'est le cas pour l'un de vous, je vous laisse imaginer combien l'a ému la vue des collines, des grands ormes, des vergers aux troncs noueux et des antiques murettes de pierre de la Nouvelle-Angleterre. Il atterrit à l'aube, dans la petite prairie de la vieille résidence des Carter, et remercia le ciel pour le silence et la solitude qui y régnaient. C'était l'automne, comme quand il était parti, et le parfum des collines était un baume sur son âme. Il parvint à traîner l'enveloppe de métal sur la pente de la futaie, jusqu'à l'intérieur de la tanière du serpent. Mais il renonça à la transporter dans la seconde caverne, ne pouvant l'introduire par la fissure envahie de racines. Ce fut également là qu'il dissimula son corps extraterrestre sous les vêtements humains et le masque de cire indispensables à ses projets. L'enveloppe y demeura plus d'une année, jusqu'au moment où certaines circonstances obligèrent Carter à lui trouver une nouvelle cachette. Il marcha jusqu'à Arkham, profitant de cette occasion pour entraîner son corps à résister à la gravité terrestre et à adopter une posture humaine, et se rendit dans une banque où il changea son or contre de l'argent. Il effectua également quelques recherches, en se faisant passer pour un étranger ignorant presque tout de l'anglais, et découvrit qu'on était en 1930, soit seulement 2 ans après l'année qu'il avait visée. Sa situation était évidemment terrible, incapable de revendiquer son identité, obligé de vivre en permanence sur ses gardes, confronté à toutes sortes de difficultés pour se nourrir, contraint d'économiser la drogue extraterrestre avec laquelle il maintenait sa facette Sgaoba endormie, il savait qu'il devait agir au plus vite. Il se rendit à Boston et loua une chambre dans les faubourgs crasseux de l'Ouest, où il savait pouvoir vivre chichement et sans trop attirer l'attention. Puis il commença à se renseigner sur les biens et effets de Randolph Carter. C'est alors qu'il apprit à quel point M. Aspinwall, ici présent, était pressé de procéder à leur partage, et avec quel courage M. de Marigny et M. Phillips s'efforçaient de les conserver intacts. L'hindou s'inclina, bien qu'aucune expression n'éclairât son visage basané, immobile sous sa barbe fournie. « Par des moyens détournés, » poursuivit-il. Carter se procura une bonne copie du parchemin qui lui manquait et entreprit de le déchiffrer. Je suis heureux de vous dire que je fus capable de l'assister dans cette tâche, car il fit appel à moi dès le début et entra en relation, par mon entremise, avec d'autres mystiques du monde entier. Je suis parti vivre avec lui à Boston, dans son pitoyable logement de Chambers Street. Quant au parchemin, j'ai plaisir à sortir M. de Marigny de sa perplexité. Qu'il me permette de lui dire que le langage de ces hiéroglyphes n'est pas du Naakal, mais du Rliehian, langage amené sur Terre il y a un nombre incalculable de cycles par la larve de Cthulhu. Il s'agit, bien sûr, d'une traduction, l'original hyperboréen qui remontait à plusieurs millions d'années auparavant était rédigé dans la langue primitive de Tsat-Yo. Il y avait beaucoup plus à déchiffrer que Carter ne s'y était attendu, mais pas un seul instant il ne perdit espoir. Au début de cette année, il a accompli d'énormes progrès grâce à un livre qu'il avait fait venir du Népal, et il est évident qu'il réussira très bientôt. Malheureusement, un problème est apparu, l'épuisement de la drogue extraterrestre qui maintient la facette Sgaoba endormie. Ce n'est toutefois pas une calamité aussi grave qu'il l'avait craint. La personnalité de Carter commence à l'emporter, et quand Sgaoba affleure à la surface du corps, pour des périodes de temps de plus en plus courtes et uniquement désormais quand un stress inhabituel le rappelle, il est généralement trop hébété pour défaire quoi que ce soit du travail de Carter. Sgaoba est dans l'impossibilité de retrouver l'enveloppe de métal qui pourrait le ramener sur Riadit, même s'il a bien failli y arriver un jour. Mais Carter a profité d'un moment où la facette Sgaoba était totalement endormie pour la cacher de nouveau. Sgaoba n'a réussi qu'à effrayer quelques braves gens et à susciter certaines rumeurs cauchemardesques parmi les Polonais et les Lituaniens des faubourgs ouest de Boston. Jusqu'à présent, il n'a jamais endommagé le délicat déguisement mis au point par la facette Carter, même s'il lui est arrivé de l'arracher si brutalement qu'il a fallu en remplacer quelques parties. J'ai vu ce qui se cache au-dessous, et ce n'est pas beau à voir. Le mois dernier, Carter a lu l'annonce juridique au sujet de la présente réunion et compris qu'il devait agir rapidement s'il voulait sauver son héritage. Il était impatient de déchiffrer le parchemin et de récupérer sa forme humaine, en conséquence de quoi il m'a chargé de le représenter pour agir en son nom, et c'est à ce titre que je suis ici. Messieurs, je vous annonce que Randolph Carter n'est pas mort, qu'il se trouve temporairement dans une situation anormale, mais que d'ici 2 ou 3 mois au plus, il sera en mesure d'apparaître en personne et de réclamer la garde de ses biens. Je suis prêt à vous en fournir la preuve si nécessaire. C'est pourquoi je vous supplie de reporter cette réunion pour un laps de temps indéterminé.
Marigny et Philippe se dévorèrent l'un d'où des yeux, comme hypnotisés, tandis qu'Aspinwall émettait une série de hauts le cœur et de soupirs apoplectiques. Puis l'écœurement du vieux juriste se transforma en une grosse colère qui lui fit marteler la table avec un poing aux veines saillantes. Quand il parla, ce fut pour aboyer.
« Combien de temps devrons-nous encore supporter ces fadaises ? Ça fait 1 heure que j'écoute ce cinglé, ce fakir, et maintenant il a l'audace de dire que Randolph Carter est vivant, et de nous demander de reporter le règlement de sa succession sans raison valable. Marigny, pourquoi ne foutez-vous pas ce coquin à la porte ? Avez-vous l'intention de laisser ce charlatan ou cet imbécile nous ridiculiser ?»
Marigny leva les mains très calmement et répondit doucement. « Permettez-nous de réfléchir tranquillement, posément. Cette histoire est des plus singulières, et elle contient des éléments que moi-même, en tant qu'occultiste au fait de certaines choses, je reconnais comme loin d'être impossible. De plus, j'ai reçu depuis 1930 plusieurs lettres du Pandit qui confirment son récit. » Comme il marquait une pause, le vieux monsieur Philippe se risqua un mot. « Le Pandit Chandraputra a parlé de preuves. Je dois admettre, moi aussi, qu'il y a dans cette histoire de nombreux éléments qui ont du sens, et j'ai moi-même reçu, au cours des 2 dernières années, plusieurs lettres du Pandit qui corroborent étrangement tout cela. Il n'empêche que certaines de ces assertions sont des plus extrêmes. N'y a-t-il rien de tangible qui puisse nous être montré ? » Alors, le pandit au visage impassible tira un objet de la poche de son ample manteau et dit lentement, d'une voix rauque, « Bien qu'aucun de vous ici n'ait jamais vu la clé d'argent proprement dite, messieurs de Marigny et Philippe s'en ont vu des photos. Ceci vous semble-t-il familier ?» D'un geste gauche, il posa sur la table avec sa grande main gantée de blanc une lourde clé d'argent terni, d'environ 5 pouces de long, d'un travail inconnu et particulièrement exotique, recouverte d'un bout à l'autre des plus étranges hiéroglyphes. Marigny et Philippe s'en eurent le souffle coupé. « C'est elle !» s'écria Marigny. « L'appareil photo ne ment pas. Impossible de me tromper !» Mais Aspinwall répliquait déjà.
« Qu'est-ce que ça prouve ? Si c'est vraiment la clé qui appartient à mon cousin, alors cet étranger, ce sale nègre, a intérêt à expliquer comment il l'a eue. Randolph Carter a disparu avec la clé il y a 4 ans de cela. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas été volé ou assassiné ? Il était lui-même à moitié dingo et en contact avec des gens encore plus fous que lui. Et toi, le négro, où t'as eu cette clé ? C'est toi qui as tué Randolph Carter ?
Les traits du pandit, anormalement placides, ne bougèrent pas. Mais ses yeux noirs, lointains et dépourvus d'iris, brillèrent d'un éclat dangereux. Il parla avec une grande difficulté.
« S'il vous plaît, monsieur Aspinwall, calmez-vous. Je pourrais vous donner une autre sorte de preuve. » Mais son effet sur vous tous ne serait pas agréable. Soyons raisonnables. Voici certains papiers, de toute évidence écrits après 1930 et dans le style inimitable de Randolph Carter.
Il tira maladroitement une longue enveloppe dessous son ample manteau et la tendit au juriste bouillonnant, tandis que Marigny et Phillips les regardaient, l'esprit en proie à un chaos de pensées auquel se mêlait une sorte de divin émerveillement. Évidemment, l'écriture est presque illisible, mais rappelez-vous que Randolph Carter est désormais privé de mains aptes à tracer les caractères humains. Aspinwall passa rapidement les papiers en revue, manifestant une certaine perplexité, mais ne changea pas d'attitude. Dans la pièce, où régnait une atmosphère tendue trahissant une excitation mêlée d'indicibles terreurs, le rythme extraterrestre de l'horloge en forme de cercueil résonnait de manière absolument diabolique pour Marigny et Phillips, alors qu'il ne semblait nullement affecter le juriste. Ce dernier reprit la parole.
« On dirait d'habiles contrefaçons. Mais sinon, cela peut vouloir dire que Randolph Carter se trouve entre les mains de personnes mal intentionnées. Il n'y a qu'une chose à faire. Arrêtez ce fakir. Marigny, voudriez-vous appeler la police ?»«
Attendons encore un peu, » répondit leur hôte. « Je ne crois pas que cette affaire relève de la police. J'ai une idée. Monsieur Aspinwall, ce gentleman est un occultiste de très grand talent. Il dit avoir gagné la confiance de Randolph Carter. Cela vous satisferait-il s'il répondait à certaines questions auxquelles seul peut répondre un homme qui a gagné une telle confiance ? Je connais Carter, et je suis à même de poser ces questions. Permettez-moi d'aller chercher un livre qui, je crois, fournira un bon test. » Il se dirigea vers la porte de la bibliothèque où Phillips, hébété, le suivit comme par automatisme. Aspinwall ne bougea pas, examinant attentivement l'hindou au visage anormalement impassible assis en face de lui. Soudain, alors que Chandraputra remettait maladroitement la clé d'argent dans sa poche, le juriste poussa un cri guttural qui fit s'arrêter net Marigny et Phillips.
« Sacrebleu, ça y est, j'ai compris. Ce filou est déguisé. Je ne crois pas du tout qu'il soit hindou. Ce visage, ce n'est pas un visage, mais un masque. C'est peut-être bien son histoire qui m'a mis cette idée en tête, mais c'est vrai. Il ne bouge jamais. Et ce turban avec sa barbe qui en cache les bords, ce type n'est qu'un vulgaire escroc. Ce n'est même pas un étranger. J'ai bien étudié sa façon de parler. C'est un Yankee d'une sorte ou d'une autre. Et regardez ses moufles. Il sait qu'on peut relever ses empreintes. Sacré nom de nom, je m'en vais vous arracher ce truc.
Arrêtez !»
La voix rauque et étrangement extraterrestre du pandit était teintée d'un accent qui dénotait une crainte au-delà de toutes les craintes terrestres.
« Je vous ai dit qu'il y avait une autre sorte de preuve que je pourrais vous donner si nécessaire, et je vous ai averti de ne pas me pousser à le faire. Ce vieil escroc rougeau a raison. En vérité, je ne suis pas un hindou. Ce visage est un masque, et ce qu'il couvre n'est pas humain. Vous autres, vous l'aviez deviné, je l'ai senti il y a déjà quelques minutes. Si j'enlevais ce masque, cela n'aurait rien d'agréable, n'y pensez pas, Ernest. Autant que je vous le dise, je suis Randolph Carter. »
Personne ne bougea. Aspinwall bougonna et esquissa quelques gestes. Marigny et Phillips, à l'autre bout de la pièce, observaient les convulsions de sa face congestionnée tout en scrutant le dos de la silhouette enturbanée assise en face de lui. Le tic-tac anormal de l'horloge était insupportable. La fumée des trépieds et les tapisseries ondoyantes esquissaient une danse de mort. Le juriste, à moitié suffoquant, brisa le silence.
« Certainement pas, espèce d'escroc. Tu ne me fais pas peur. Je sais que si tu ne veux pas retirer ce masque, c'est pour d'autres raisons. Peut-être parce qu'on te connaît. Allez, enlève-moi ça. »
Alors qu'il tendait la main, le pandit la lui agrippa maladroitement d'un de ses membres gantés en poussant un curieux cri, mélange de douleur et de surprise. Marigny s'élança vers eux, mais s'arrêta, en proie à la confusion, lorsque le cri de protestation du pseudo-hindou se changea en un cliquetis bourdonnant absolument inexplicable. Le visage congestionné d'Aspinwall était maintenant rouge de colère, et le juriste, de sa main libre, essaya de nouveau d'arracher la barbe fournie de son adversaire. Cette fois, il réussit à l'attraper. Et comme il tirait dessus frénétiquement, ce fut tout le visage de cire qui se détacha du turban et se retrouva accroché au point apoplectique du juriste. Au même moment, Aspinwall émit un cri gargouillant de terreur. Phillips et Marigny virent alors son visage se tordre sous l'effet de la plus violente, la plus profonde et la plus horrible expression de panique qu'on eût jamais vue sur une physionomie humaine. Pendant ce temps, le pseudo-pandit avait libéré l'autre main du juriste et se dressait, apparemment hébété, en émettant des bourdonnements particulièrement étranges. Puis la silhouette enturbanée se ramassa étrangement sur elle-même, prenant une posture qui n'avait presque plus rien d'humain, et commença à se traîner bizarrement vers l'horloge en forme de cercueil dont le tic-tac anormal et cosmique semblait la fasciner. Son visage à présent découvert était tourné de l'autre côté, si bien que Marigny et Phillips ne pouvaient voir ce que le geste du juriste avait révélé. Puis leur attention se reporta sur Aspinwall, qui s'effondra lourdement sur le parquet. Le charme était rompu, mais quand ils atteignirent le vieil homme, il était mort. Se retournant précipitamment vers le pandit, qui continuait à se diriger à pas lents vers l'horloge, Marigny vit l'une des grandes moufles blanches glisser d'un des bras ballants. À travers les épaisses vapeurs d'Oliban, il ne distingua qu'une chose longue et noire à la place de la main découverte. Avant de laisser le créole atteindre la silhouette battant en retraite, le vieux monsieur Phillips lui posa la main sur l'épaule pour le retenir. « Ne faites pas ça, » murmura-t-il. « Nous ne savons pas à quoi nous sommes confrontés. Cette autre facette, vous savez, Sgaoba, le magicien de Yadit. » La silhouette au turban avait maintenant atteint l'horloge difforme. Sous les yeux médusés des deux hommes qui la regardaient à travers les épaisses fumées, elle tâtonna du bout de son indistincte griffe noire la grande porte couverte de hiéroglyphes. Les tâtonnements furent suivis d'un étrange cliquetis. Puis la silhouette entra dans le coffre en forme de cercueil et tira la porte derrière elle. Marigny se libéra de l'étreinte de Phillips et courut vers l'horloge. Mais lorsqu'il l'ouvrit, elle était vide. Le tic-tac anormal continuait de battre au rythme macabre et cosmique qui accompagne toute ouverture de porte mystique. Sur le sol, la grande moufle blanche et le mort qui tenait dans son poing le masque barbu n'avaient plus rien à révéler. Une année s'est écoulée et toujours aucune nouvelle de Randolph Carter. Sa succession n'est toujours pas réglée. L'adresse de Boston, d'où un certain Pandit Chandraputra avait envoyé des requêtes à diverses mystiques au cours des années 1930 à 1932, s'avéra en effet occupée par un étrange hindou, mais il était parti peu de temps avant la réunion de la Nouvelle-Orléans. On ne l'a plus jamais revu depuis. On disait qu'il avait un visage basané, barbu et dépourvu de toute expression. Le propriétaire de son appartement pense que le masque bistré, qui fut dûment exhibé, lui ressemble beaucoup. Cependant, ce pandit ne fut jamais suspecté d'être lié à ces apparitions cauchemardesques auxquelles les Slaves de Boston font allusion à voix basse. Les collines situées derrière Arkham furent fouillées à la recherche de l'enveloppe de métal, mais aucun objet de cette sorte ne fut jamais trouvé. Cela dit, un clerc de la First National Bank, à Arkham, se rappelle un étrange homme enturbanné qui avait converti en espèce un étrange lingot d'or en octobre 1930. Marigny et Phillips ne savent pas vraiment quoi penser de cette affaire. Après tout, y avait-il une preuve quelconque ? Il y avait une histoire. Il y avait une clé qui pouvait avoir été contrefaite à partir d'un des dessins que Carter avait largement fait circuler en 1928. Il y avait des papiers, tous peu concluants. Il y avait un étranger masqué, mais quel être vivant peut dire ce qu'il a vu derrière le masque ? Marigny et Philippe s'étaient si tendus, et il y avait tellement de vapeur de Liban, qu'ils avaient fort bien pu être victimes d'une hallucination collective en croyant voir l'hindou disparaître dans leur loge. Les hindous sont des maîtres en matière d'hypnotisme. La raison voudrait que le pandit eût été un criminel cherchant à s'approprier les biens de Randolph Carter. Mais l'autopsie révéla qu'Aspinwall était mort à la suite d'un choc. Fut-il uniquement provoqué par la rage et certains éléments de cette histoire ? Dans une grande pièce aux murs tendus de tapisseries aux motifs étranges et saturés de vapeur de Liban, Étienne Laurent de Marigny s'assied souvent pour écouter, en proie à d'indescriptibles sentiments, le rythme anormal de l'horloge couverte de hiéroglyphes en forme de cercueil.